Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Nous sommes mercredi 3 novembre. Bonne journée et bienvenue au 98,5 avec de très belles prévisions sur la table parce qu'on prévoit pour aujourd'hui un dégagement. Il y a eu un peu de pluie hier, là, pas grand-chose, un petit peu durant la nuit aussi. Et donc, on se prévoit facilement du temps ensoleillé, possiblement pour les 5-6 prochains jours, et notez que ça va se réchauffer également en fin de semaine. Alors, ce matin, on a 3 degrés, c'est couvert, le dégagement s'en vient, 5 degrés, c'est le maximum qui est prévu, moins 1 pour la nuit prochaine. Demain, jeudi, du soleil 5, toujours moins 1 dans la nuit, puis on termine la semaine vendredi avec 7 degrés, des températures qui vont grimper en fin de semaine à 10, et peut-être même un petit peu plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est du soleil mur à mur, il n'y a pas de pluie à l'horizon. Évidemment, on est tous, je pense, secoués par les détails entendus au procès de la belle-mère de cette petite victime, cette fillette de Granby. Il y a eu des problèmes techniques là, qui ont retardé le procès un peu. Mais c'est l'ado de 16 ans qui est venu témoigner. Donc, qui est le fils de l'accusé, puis demi-frère, si on veut, de la victime. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont qui veulent pas entendre les détails. Mais je pense qu'il y a une façon de dire les choses, puis c'est important de comprendre ce que l'ado est venu raconter. La petite avait pas un comportement, disons, régulier, normal, selon ses termes. Qu'elle voulait toujours manger, mais qu'elle était maigre. Et qu'à l'école, on l'avait su, elle volait des lunchs. Puis que l'école l'avait retournée à la maison. On sait également qu'elle tentait assez souvent de sauver de la maison. Puis qu'elle était rattrapée. Rappelez-vous ce voisin qui est venu témoigner. Puis qu'il l'a vu, était venu cogner, puis bon. C'était un enfant qui avait peur d'être à la maison, puis qui ne se sentait pas très bien à la maison. Pour ne pas dire autre chose, je vais m'en tenir au procès. Mais ce qu'il a dit hier, puis là, ce qui est très spécial, c'est l'entrevue vidéo là, qu'il a donnée d'abord à la police, puis son témoignage ensuite, mais il est revenu dire à la police que la petite était enrubannée de la tête aux pieds, que c'était comme une momie, qu'elle avait le teint pâle. Et elle se trouvait donc au sol dans sa chambre et qu'on avait placé des meubles pour la bloquer dans sa chambre, pour l'empêcher de sortir. Et il a expliqué finalement qu'il y avait même plusieurs couches. Notre collègue qui suit ça pour Trois-Rivières va nous donner encore plus de mise en contexte tantôt. Donc, elle a fait, paraît-il, des tentatives de fugue, plusieurs, dans les 24 heures qui ont précédé son décès. Et ce témoin aussi est venu dire que l'enfant passait des journées complètes dans sa chambre. Il faut aller voir les autres témoignages, là, puis ceux qu'on a déjà entendus, puis les autres à venir. Mais c'est sûr que le portrait qu'on a ce matin, c'est un enfant martyrisé. C'est un enfant qui était mal nourri. C'est un enfant qui volait de la nourriture, puis c'est un enfant qui était maltraité. Comment on peut expliquer qu'elle était enrubannée comme ça, avec du scotch tape, puis plusieurs couches d'épaisseur? Il est arrivé quoi? Et là, c'est le procès de la belle-mère. Le père, c'est autre chose. Alors, on va vous donner d'autres précisions un peu ce matin. Maintenant, parlons des mesures qui ont été annoncées par Québec qui font réagir beaucoup. Il y a des gens qui veulent la levée rapide des mesures en disant, là, écoutez, on a 500 cas par jour, c'est pas si grave que ça dans les hôpitaux. Presque 90 % des Québécois ont la double vaccination, ou même 90 % là. Bref, les enfants vont commencer à les vacciner d'ici Noël, alors on a besoin de liberté. Puis il y en a d'autres qui sont inquiets. Et ce qui a fait beaucoup jaser hier, c'est la décision de permettre aux élèves du secondaire, pas du primaire, évidemment, mais du secondaire, de ne pas porter le masque dans les salles de cours. Pourquoi? Parce que, d'abord, le pourcentage d'ados doublement vaccinés est très élevé, et on pense que c'est pas nécessaire. Par contre, pour des étudiants, cégep, université, on maintient la directive. Et des gens de santé publique qui ont dit « c'est pas une bonne idée, c'est trop vite », souvent des ados ont des petits frères, des petites sœurs qui sont pas encore vaccinés, il aurait été préférable d'attendre. Mais ce qu'on note donc dans les mesures qui vont entrer en vigueur le 15 novembre, il y a bien sûr la permission d'enlever le masque dans les salles de cours. Dans les gyms, les masques pourront être retirés lors d'activités physiques intenses. On va revoir le karaoké. Vous allez pouvoir aller, par exemple, danser, chanter. Vous allez pouvoir vous amuser dans les bars. Donc, c'est une série de mesures. La question qui persiste, parce que là, on parle, par exemple, dans les restos. Faites 10 à une table, puis si vous êtes 3 bulles, ça peut être un peu plus que 10. Qu'est-ce qui se passe pour les parties privées? Autrement dit, avec Noël qui s'en vient, vous allez pouvoir accueillir combien de personnes chez vous, puis est-ce que ça prend... Bon. Alors, trop tôt pour le dire, mentionnait le docteur Arruda hier, faudra être patient. Mais en même temps, les gens veulent s'organiser et on a hâte de voir un peu ce qui va être décidé par la santé publique. C'était très attendu comme résultat, mais finalement, le Maine qui dit non à ces lignes de haute tension, ce corridor d'électricité qui devait rapporter quand même des milliards de profits à Hydro-Québec sur une période de 20 ans, on sait que l'idée c'était d'alimenter Boston et pour ce faire, on devait passer par le Maine. Donc, c'était un référendum. Les autorités politiques étaient d'accord avec ça. Ils trouvaient un avantage, mais il y a eu tout un lobby qui s'est organisé de gens qui voulaient protéger la nature, des gens qui ont des intérêts, des concurrents de Hydro-Québec, là, notamment dans le domaine du gaz. Ce qui fait en sorte que 59 % des électeurs ont dit non au passage d'une ligne de haute tension. Et on pensait au départ que ce serait un peu plus serré. Et je vais parler avec la présidente de Hydro-Québec, Sophie Brochet, un peu plus tard ce matin. Mais le fait aussi que Hydro-Québec, donc une entreprise canadienne-québécoise, était en charge du projet, dérangeait beaucoup d'Américains. Les Américains, là, sur l'ouverture, c'est une chose quand c'est à leur avantage. Mais ils auraient voulu, par exemple, qu'une entreprise américaine soit en charge du projet. Maintenant, dans le Journal de Montréal ce matin, la rémunération des médecins. Ça arrive pratiquement chaque année. Il y a 200 médecins qui ont fait 1 million et plus par année. Il y en a qui ont fait même 2 millions par année de rémunération. Et vous retrouvez des ophtalmologistes avec 2,1 millions, un chirurgien, un autre ophtalmo et un médecin, la médecine interne, 2 millions. Et quand vous regardez, même s'il y a eu moins de chirurgie, on le sait, durant la pandémie, et là on a les chiffres pour 2020, il y a quand même un petit peu moins de médecins qui sont millionnaires, mais ça se comprend aussi par le fait qu'on a réduit, par exemple, le nombre de chirurgies. Et les millionnaires par spécialité, là où vous en trouvez le plus, les ophtalmologistes, les radiologistes, les cardiologues, des médecins omnipraticiens et finalement des chirurgiens généraux. Et tout ça alors qu'on a un débat sur l'accès aux médecins de famille, qu'on a un débat sur les listes d'attente. Il y a l'Institut de la pertinence qui a été créé pour voir, y a-t-il moyen de récupérer de l'argent. Et c'est sûr que ça fait toujours sursauter. Puis moi, je serais curieux de voir un peu la ventilation de quelqu'un qui fait 2 millions. Il a fait combien d'interventions, des interventions avec des primes en région éloignée, parce que là, ça peut monter assez vite. Je serais curieux de voir ça, mais 2 millions, on imagine qu'ils ont dû en voir des patients quand même, mais c'est un peu moins, en raison de la pandémie, que ce qu'on a déjà vu avant. Parlons maintenant du monde municipal. D'abord, hier matin, je vous ai raconté l'histoire du petit Alexis, qui est un enfant de 12 ans, lourdement handicapé, et ses parents tentaient depuis des mois et des mois, pratiquement 2 ans, d'obtenir un permis pour avoir une plateforme à l'extérieur pour soulever la chaise roulante, faciliter l'entrée et la sortie d'Alexis. Puis là, il se battait, ça se passe dans Villeray, avec les autorités. Puis là, c'était long, compliqué, visite de l'inspecteur, il n'y a rien qui avance. Puis, ses problèmes de mobilité sont plus importants. Il a fait un séjour à l'hôpital de Montréal pour enfants. Même la fondation de l'hôpital a tenté de convaincre l'arrondissement de d'émettre le permis. Puis là, le temps froid s'en vient. Puis si tu veux faire du béton, ben tu dois procéder assez rapidement. Et finalement, sans doute qu'on est en pleine campagne électorale, ça aide. Le permis a été émis non seulement pour l'extérieur, mais aussi pour l'intérieur, parce qu'il y a des travaux d'aménagement pour la salle de bain, escalier, puis bon. C'est pas normal, et je veux insister là-dessus, là, ce n'est pas normal que ça débloque parce qu'on en parle à la radio. C'est pas normal. Et je comprends là, le contexte. On est à quelques jours du vote. Il n'y a personne qui veut se ramasser avec la patate chaude là, de dire « mais pourquoi on n'est pas capable d'aider une famille, des parents d'un enfant handicapé? » Mais ça montre des problèmes dans cette machine municipale. Puis vous savez, on nous annonce là des engagements qui vont coûter cher, mais c'est assez rare qu'on nous parle d'une machine plus efficace, plus souple, moins poussiéreuse que la bureaucratie municipale. Puis il y en a des exemples à la tonne. Fait que là, ça a pris quoi? Hier matin, 9h, là, j'ai reçu la capture d'écran du permis. Ça veut dire que les informations, ils les avaient, là. Que les demandes avaient été faites correctement, là. Ils nous ont pas dit, ah, vous savez, il manque... Non, non. Ils ont été capables d'émettre le permis aussi vite que ça. Comment ça se fait qu'ils l'ont pas fait avant? Puis là, on parle pas de démolir une maison au grand complet, on parle pas de reconstruire des étages, on parle d'une plaque pour soulever une chaise roulante, puis on parle de travaux à l'intérieur. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant que ça passe par des pressions comme ça, publiques dans un contexte électoral. Maintenant, parlons de Denis Coderre, qui se fait questionner sur ses emplois, donc des 4 dernières années. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu à date 2-3 choses. Il a dit qu'il a fait pas mal plus d'argent comme consultant que comme maire de Montréal. Bref, il revient pas, dit-il, pour faire de l'argent. Deuxièmement, il y a des emplois connus. On peut penser à Stingray, on peut penser à Eurostar par le biais de la Caisse de dépôt. Et ce matin, la presse nous dit qu'il a conseillé le promoteur et gestionnaire immobilier Cogir. Cogir, c'est un géant. Le PDG de l'entreprise, c'est Mathieu Duguay, pardon. Et ils se sont spécialisés dans toutes sortes de projets, des résidences pour personnes âgées. Si vous prenez au centre-ville de Montréal, le complexe Humanity, qui a été développé avec d'autres partenaires, lui confirme que M. Coderre a travaillé pour lui puis qu'il n'y avait pas d'entente non plus de confidentialité. Alors que M. Coderre disait, ben, je peux pas rendre ça public, j'ai des ententes. Peut-être qu'il y en a avec d'autres. Et c'est un promoteur qui, dans les 6 derniers mois, nous dit la presse, a lancé 7 chantiers d'une valeur $500 million. Vous avez un ensemble de près de 1000 logements à la salle. Vous avez également des projets dans Rosemont, le Sud-Ouest et aussi dans Ville-Marie. Alors, là, ça vient comme accroître la pression. Et M. Coderre répète toujours sa ligne, là, qui est de dire, si je suis élu, ben, je vais m'asseoir avec le responsable de l'éthique, puis on va mettre ça bien clair, puis il n'y aura pas d'enjeu. Je trouvais hier que Luc Ferrandez avait une pas pire d'idée. Que M. Coderre ait fait 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, personnellement, je pense que ça dérange pas grand monde. Les honoraires de consultant, là, il peut très bien gagner sa vie avec ça. Mais des fois, t'es mieux peut-être de prendre l'initiative, de dire voici pour qui j'ai travaillé. Puis voici, sans donner le détail de la rémunération. Mais oui, j'ai travaillé pour un promoteur immobilier, mais je l'ai aidé dans ses opérations à l'extérieur. J'ai travaillé pour Stingray comme consultant. X raison. tu sais, un vieux principe en politique, prends les devants. Attends pas que les autres déterrent ça, puis qu'ils nous sortent ça au compte-gouttes, parce que là, c'est le supplice chinois là, qui s'étire. Puis c'est pas interdit, en plus, de gagner sa vie, je pense. Tu sais, si vous êtes, je sais pas moi, prof, puis vous allez en politique, puis vous demandez un congé sans solde, vous revenez comme prof, puis c'est correct. Mais quelqu'un qui a été député, qui a été maire de la ville, qui a le droit de gagner sa vie, je pense que l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, ce que les Montréalais veulent savoir, avec qui il a eu des liens, pour que ça soit transparent. Puis en 2021, surtout dans une ville comme Montréal qui a été secouée par des scandales de corruption, c'est de plus en plus exigé de la part des électeurs. Et d'ailleurs, demain, on va recevoir Mme Plante et M. Coderre. Je pense que ce sera leur dernier débat de campagne. Puis entre-temps, ben, Mme Plante nous annonce qu'elle veut elle aussi ajouter des policiers. C'est... On aurait pu le faire avant, là. Mais je regarde le maire de New York qui a été élu hier. Et c'est une victoire spectaculaire, là, dans le sens où une très forte majorité. Il s'appelle Eric Adams. C'est un ancien policier. Et il était le patron, l'élu de Brooklyn depuis 2014. Et son thème principal, c'est justement la sécurité publique. Il dit, moi, je suis un homme de police. J'ai connu les quartiers chauds de la délinquance. Puis il n'y a pas que le pouvoir des policiers qui doit être déployé sur la rue. Il y a des programmes qui doivent exister également. Mais, dit-il, c'est important la visibilité. Alors là, Mme Plante, puis on sait que son parti ne la suit pas à 100% là-dedans, là, c'est non seulement maintenir les effectifs parce qu'il y a des départs à la retraite, mais c'est d'augmenter le nombre de policiers. Alors, va être intéressant à voir quand même ce débat qui aura lieu demain. Et on poursuit avec la politique. Marie, mon petit, Dominique Anglade a dit « J'ai entendu tellement d'affaires sur elle que c'est terminus. Je vois pas le jour où elle peut retourner au caucus. » Et donc, ça revient pas au caucus. L'élection, c'est l'an prochain. Elle ne sera pas candidate. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une plainte? Et Bernard avait raison de dire qu'il y a un processus de plainte. T'es pas obligé de le dire maintenant à la personne qui est accusée. Mais il y a des allégations très claires qui ont été déposées, en fait, puis des infos qui sont venues aux oreilles de Dominique Anglade. Alors, c'est terminé. Elle a dit, j'ai l'obligation de réagir. Puis, elle ne sera pas candidate pour notre parti. Avis aux parents également. Il y a un recours collectif qui s'organise contre des écoles privées de la grande communauté métropolitaine. Des parents qui disent, pendant la COVID, pendant les mesures de confinement, on a payé des frais pour des services qu'on n'a pas eus parce que l'école était fermée. Et donc, il y a 113 écoles privées qui sont visées pour la période de confinement qui est allée du 13 mars jusqu'au 30 juin, donc la fin de l'année scolaire. Alors, on verra comment ce sera accueilli devant le tribunal. Et vous dire également, je vais finir avec ça sur le plan médical, il y a des chiffres concernant le cancer de la prostate qui montrent que les techniques d'examen, l'imagerie médicale permettent de mieux diagnostiquer les cancers de la prostate et aussi les traitements qui se sont développés au fil des ans. Ça permet de réduire le taux de mortalité. Quand vous regardez le nombre de personnes décédées des suites d'un cancer de la prostate, ça a chuté considérablement depuis les dernières années. Toujours des gens qui en meurent, mais beaucoup moins selon les chiffres de la Société canadienne du cancer. C'est quand même une bonne nouvelle, mais ça veut dire examen, détection précoce et traitement qui peut évidemment donner d'excellents résultats.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Hier, Québec a annoncé l'entrée en vigueur de nouveaux assouplissements à compter du 15 novembre. On retient bien sûr que les étudiants au secondaire n'auront plus à porter le masque à l'intérieur des salles de cours. Et également que la danse et le karaoké, toujours avec un certain nombre de mesures, là, vont pouvoir recommencer à nouveau. J'en parle avec Daniel Paré, directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie. Monsieur Paré, bonjour.
Ben bon matin, Monsieur Arcand.
Vous avez changé de titre, là, vous?
Ah, oh, je pense que c'était plus pour refléter les tâches auxquelles maintenant là, je suis assigné. Là. Mais comme je vous dis, c'est les mêmes dossiers de la pandémie. Faites-vous comme je parlais avec votre collègue tantôt, c'est pas une promotion, c'est des nouvelles responsabilités, c'est tout.
OK. Alors, ça veut dire qu'au-delà de la vaccination, je peux vous poser des questions sur les mesures, là, les assouplissements qui ont été annoncés.
Oui, allez-y, okay. Sans problème.
Bon, il y a deux ou trois questions qui reviennent énormément, là. Juste que ça soit clair pour les gens. D'abord, quand vous annoncez pour les écoles, c'est le secondaire, le masque ne sera plus obligatoire en classe, mais dans les aires communes et dans les autobus, les élèves vont devoir continuer de le porter.
C'est exactement ça. Cet allègement-là, dans le fond, là, reflète qu'on a peu d'éclosion au niveau des écoles secondaires. Nos adolescents sont vaccinés. Et en classe, on sait que majoritairement les gens sont assis. Donc, on trouvait que c'était un allègement là, qui était maintenant acceptable là, justement suite à cette situation-là.
Pourquoi c'est pas la même chose au niveau collégial et universitaire?
Les jeunes, ça demeure des jeunes pour vous et moi. C'est pas les mêmes activités. Je dirais même que le taux de vaccination est un peu différent aussi. Mais c'est quelque chose qu'on regarde là, pour des futurs allègements. Mais pour les écoles secondaires, pour nous, là, c'était une évidence. Là.
OK. Pour ce qui est des restaurants, c'est quoi la règle là, de 10 personnes par table, 3 cellules familiales? Dites-moi ça clairement, là.
Ben encore là pour les restaurants, vous l'avez très bien. Le passeport vaccinal, on a le masque pour se protéger. Lorsqu'on est assis à une table, on peut enlever notre masque. Et exactement 10 personnes ou 3 familles. Donc il se pourrait que 3 personnes d'une même famille, il serait 12, mais ça serait acceptable parce que c'est la même bulle familiale. Mais la bulle familiale, c'est pas vos frères, vos sœurs qui demeurent pas à la même place que vous. Là. C'est vraiment la même adresse, etc. Puis c'est toujours dans une idée de protection. Il faut toujours garder ça en tête.
Là, on s'en va vers les parties de Noël et tout ça. Puis des gens qui vous écoutent ce matin, puis qui des employeurs, des employés qui disent est-ce que je réserve ou pas. Maximum de 10 personnes par table. J'essaie de comprendre comment ça peut fonctionner. Il y a 30 employés, mettons, qui se réunissent. C'est quoi, 10 par table, fait 3 tables de 10. Ils peuvent chanter, ils peuvent danser dans le restaurant ou dans une salle qu'ils ont louée?
C'est en plein ça. Et des petites nuances, là, comme on dit des fois, là, c'est un endroit privé ou c'est un endroit là, dit public, mais les règles, là, et en tout cas, on l'a voulu comme ça, les règles sont relativement simples avec le passeport vaccinal et le masque. Et c'est les mêmes, je dirais, pratiques là, qu'on a depuis le début de la pandémie. Et on comprend pour le moment là, que oui, il y a encore des limitations. C'est pas pour punir, hein, c'est pour bien protéger. Mais on continue de travailler là, sur les mesures ou des possibilités de mesures d'allègement là, pour le privé, un peu comme Dr. Arruda le mentionnait hier en conférence de presse là, pour la période des fêtes. Mais on croit qu'avec les règles actuelles, là, on serait capable d'organiser des activités là, sécuritaires.
OK. L'autre question. Ça concerne des activités, puis je vous donne un cas très précis, là. Des parents qui veulent aller assister à des tournois de volleyball, par exemple, intérieurs. Là, il y avait des règles qui limitaient le nombre de parents qui pouvaient y aller. Puis ils se disent, si on peut remplir le Centre Bell, pourquoi est-ce qu'on ne permet pas aux parents d'assister aux activités de leurs enfants?
Mais encore là, c'est possible. C'est toujours la notion aussi de passeport vaccinal. Hein. Vous comprenez, dans toutes nos grandes mesures, on a séparé ça en deux. Puis je m'excuse de la grande introduction, mais ça va aider, je pense, pour la suite des choses. Là. Lorsque c'est essentiel, pas de passeport vaccinal, bien sûr, couvre-masque et on limite des capacités. Lorsque c'est essentiel, lorsque c'est pas essentiel, on a joué sur nos capacités, mais avec le passeport vaccinal. Fait que dans la situation que vous me nommez là,
ouais.
Un parent qui est vacciné pourrait assister là au tournoi de volleyball.
Là. OK, bien là, il y a des parents qui se font dire qu'ils peuvent pas y aller parce que la santé publique limite le nombre de parents qui peuvent y assister.
Mais encore là, avec les allègements qu'on a présentement, là, ça a été annoncé hier. Là. Fait que là, nous, dans les prochains jours, là, on va encore expliquer expliquer là justement au milieu scolaire ou aux autres là, la portée là, des allègements. Et c'est normal, je pense, là, qu'à moins de 24 heures là, de l'annonce, là, que ces détails-là là, soient moins compris. Puis vous me permettez en plus d'en expliquer. Puis on va continuer, nous, de l'expliquer là, avec les secteurs économiques là, respectifs.
OK, ça veut dire, là, puis là, je pense au hockey mineur. Je pense, là, c'est un exemple de volleyball, mais ça veut dire qu'on va pouvoir, avec la preuve vaccinale, augmenter le nombre de personnes qui assistent à des événements.
Bien, c'est l'esprit. C'est vraiment, là, on dit qu'on veut revenir à une vie plus normale. On a des outils maintenant, le passeport vaccinal, et avec le masque, etc. Puis je pense que vous avez donné un bon exemple. On est capable, au Centre Bell, de faire des choses. On va être capable aussi de le faire là, au niveau là, de nos activités sportives, mais avec les règles là, que je viens de vous donner là. Et c'est un, entre guillemets, des grands gains là, qu'on a fait là, de notre grande campagne de vaccination. Il faut que ça se traduise là, sur le terrain parce que c'est les allègements qu'on vient de mentionner là.
OK. L'autre question, là, je vous ramène à votre responsabilité de la vaccination. Est-ce que je comprends, puis là, il y a beaucoup de si, là, les approbations de Santé Canada, mais l'idée, c'est de commencer la vaccination des enfants avant Noël pour la première dose.
Monsieur Arcand, je vous dis que c'est mon focus, moi, il est mis là-dessus. Lorsqu'on parle aux grands scientifiques là, de notre Institut national de santé publique, de notre direction de santé publique, ce qu'on nous dit, le groupe des 600 000, ce groupe de jeunes-là des 5 à 11 ans, c'est 600 000 personnes qui sont non vaccinables aujourd'hui, qu'on va vacciner, peuvent vraiment faire une différence dans notre gestion pandémique qu'on fait présentement. Donc, on va mettre beaucoup d'énergie pour justement là, offrir la vaccination en mode hybride, sur place, site de vaccination, des transports, autobus, un peu comme on l'avait fait pour nos ados. Mais ce groupe-là, imaginez-vous, là, ça va vraiment augmenter notre couverture vaccinale, d'où l'importance là, de mettre beaucoup de temps et d'énergie. Et oui, ça va être un sprint, parce que quand je regarde le temps des fêtes, ça va arriver très bientôt. On sait que les classes se terminent pour certaines écoles plus tôt, autour du 16-17 décembre. Fait que nous, on a toutes ces dates-là, puis on va mettre beaucoup d'énergie là, à l'offrir, cette vaccination-là, en mode sprint. C'est trop important.
Combien de temps, normalement, après l'approbation par Santé Canada, vous recevez les premières doses?
C'est relativement rapide. Là. C'est en dedans d'une semaine, habituellement, parce que ce qu'il faut faire pour le manufacturier, c'est que lorsque Santé Canada vont donner leur approbation, eux, ils doivent adapter leur monographie comme à chaque pays. Comme là, hier, les États-Unis l'ont approuvé. Le Canada devrait l'approuver, je pense, sous peu. Ils vont adapter la monographie, donc changer les petits papiers dans les... Et après ça, on va et envoie le tout. Moi, avec la compagnie Pfizer, déjà, ils ont nos adresses pour les livraisons. Fait que vous voyez là qu'on sent les moteurs là tourner là. Fait que ça, je pense qu'encore là ils vont vraiment limiter là, l'intervalle de temps entre l'annonce et les livraisons. Et nous, on va utiliser ce temps-là entre les deux pour ouvrir nos rendez-vous dans Clic Santé, finaliser encore là nos rencontres avec les écoles. Exemple, si je prends X écoles, on peut pas dire encore quelle journée ça va débuter, mais lorsqu'on va avoir l'annonce, on va être capable vraiment de terminer notre calendrier. Quand est-ce qu'on va utiliser leur gymnase pour vacciner nos jeunes, distribuer les papiers de consentement. Fait qu'il y a quand même beaucoup de manœuvres. Tout est presque prêt, mais tout dépend de la monographie là, du produit. Mais je peux vous dire encore une fois qu'on va être en mode sprint.
Parce que là, ça prend l'approbation des parents, là.
Tout ce groupe-là, vraiment, là, c'est une particularité. Là, ça va prendre l'approbation des parents. Lorsqu'ils vont venir en site de vaccination, s'il y en a qui choisissent de cette façon-là, eh bien, ça va se faire sur place. Mais avec la collaboration des écoles, on va aussi distribuer là, des formules de consentement pour ceux qui vont vouloir se faire vacciner là, à l'école. Mais c'est 100% le consentement des parents. Vous avez raison.
OK. Et ça veut dire ça que l'intervalle entre les deux doses pour les enfants, ça va être de quoi? 4-8 semaines?
Écoutez, on n'a pas la réponse finale parce que ça va venir avec la fameuse homologation de Santé Canada et l'avis de notre comité d'immunisation du Québec. Mais je gagerais des sous sur un intervalle de 8 semaines. On a eu un avis là, justement cette semaine que l'intervalle plus long entre les deux doses a vraiment un effet positif. C'est une des grandes différences là, pour les Québécois là, présentement, où ce qu'on se distingue là, par rapport à ça. Fait que moi, je gagerais un petit 2 là-dessus. Donc, ça serait une deuxième dose là, vers la fin janvier et le mois de février.
On dirait comme vous, c'est un sprint.
Oui, c'est un sprint.
C'est assez intense. M. Paré, merci. Bonne journée.
Merci à vous, M. Arcand.
Daniel Paré, le directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie. Pour ce qui est, parce que beaucoup de courriels, là, pour ce qui est de ce qu'on appelle les rencontres privées, là, les soirées privées puis le temps des fêtes, ben ça va venir. Hier, j'écoutais le point de presse, puis le docteur Arruda a dit « on n'est pas rendu là encore ». Je sais que pour bien des auditeurs, là, tu dis « mais ouais, mais si tu peux rentrer autant de monde avec le passeport vaccinal, puis moi, si je sais que les gens qui viennent chez moi sont vaccinés, pourquoi je peux pas avoir des parties plus importants à l'intérieur d'une maison? » Puis là, Noël, tu sais, on veut pas un petit party plate, là. Il y a bien des gens qui veulent aussi retrouver, disons, des fêtes familiales plus importantes. C'est à venir. Et cet après-midi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, fait un autre point de presse, cette fois sur la vaccination obligatoire, puis l'État, en fait, l'impact sur le réseau de la santé. On a compris hier que ça n'a pas beaucoup de succès, qu'on pensait peut-être vacciner plus de gens, mais qu'il y a toujours cette réticence. Est-ce que la date du 15 novembre va être déplacée une fois de plus? Je rappelle que le premier ministre Legault avait dit ici, on va peut-être y aller de façon ciblée, chirurgicale, en disant dans tel hôpital, dans telle région, on va appliquer la mesure. Là, on écoutera ça cet après-midi avec le ministre de la Santé.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, on entre dans les témoignages d'enfants au procès de la belle-mère de cette pauvre petite fillette de Granby, qui, vous le savez, a été retrouvée dans un état épouvantable et finalement décédée des mauvais traitements. Et la belle-mère est donc accusée. Et quand je dis témoignage d'enfants et d'adolescents, hier, c'était absolument bouleversant d'entendre le fils de l'accusé venir décrire ce qu'il a vu, qu'est-ce qui se passait dans cette maison, notamment dans les 24 heures qui ont précédé le décès de l'enfant. Alexis Sanson, notre collègue de Cogeco à Trois-Rivières, suit le procès. Donc, Alexis, il a donné beaucoup, beaucoup de détails aux policiers là, sur ce qu'il a vu dans la maison.
Oui, effectivement, le fils de l'accusé qui est venu raconter que la fillette était enroulée de la tête aux pieds dans du ruban adhésif. Ce qu'on a commencé par présenter hier, c'est l'enregistrement, l'entretien vidéo du fils de l'accusé la journée des événements, plus tard le 29 avril 2019, à l'interrogatoire de police du côté de Granby, où il raconte dans le premier enregistrement que la fillette était littéralement attaché les jambes et les bras avec du ruban adhésif. Par contre, raconte qu'il a oublié de mentionner une information très, très importante et c'est là qu'il y a un deuxième enregistrement qui est présenté où il vient admettre que la fillette était enroulée dans le ruban adhésif de la tête aux pieds. Elle en avait même sur le visage. Et plus tard, l'avocat de la poursuite l'a questionné en lui demandant c'était où exactement. Est-ce qu'il y en avait sur le menton? Il a répondu oui. Sur les oreilles, il a répondu oui. Sur les cheveux, il a répondu oui. Sur les yeux, il a répondu oui. Sur le nez, oui encore. Et sur la bouche, oui aussi. Il dit elle était momifiée. C'était une momie. Il y avait plusieurs couches. On pouvait pas voir ses yeux à travers. Le fils de l'accusé mentionne qu'il ne voulait pas partager cette information-là lors du premier entretien, puisqu'il voulait protéger sa mère. Il admet également que la fillette, elle avait un teint blême, la peau mauve, le matin du 29 avril 2019. Il dit également qu'on lui a demandé d'aller cacher le tape, ce qu'il a refusé. Il faut aussi mentionner que dès que l'accusé a vu son fils, elle est tombée en pleurs dès les premiers instants là, hier au palais de justice de Trois-Rivières.
Bon, il y a aussi une description du témoin là sur la vie à l'intérieur. Il a parlé de sa demi-sœur en disant qu'elle était pas en fait des problèmes à l'école, elle volait des lunchs, qu'à l'intérieur de la maison, on l'a comme enfermée dans sa chambre et à plusieurs reprises.
Ouais, ce qu'il raconte, c'est qu'elle pouvait pas sortir de sa chambre à moins d'être accompagnée. Et qu'elle pouvait passer parfois des journées complètes à l'intérieur de sa chambre, surtout depuis qu'elle faisait l'école à la maison, ce qui date dans les mois de précédant le drame. Raconte également que la fillette était spéciale, très spéciale, pas dans le bon sens. Ce sont les mots que le fils de l'accusé a utilisés. Et ce qui est également venu révéler, c'est que à quatre reprises dans les 24 heures qui ont précédé le drame, la fillette a tenté de s'enfuir quatre fois. La troisième, c'est là qu'elle a réussi à s'enfuir à l'extérieur et à aller sonner chez un voisin. C'est après cette tentative-là qu'on a finalement barricadé sa chambre, que des meubles ont été empilés le long du mur de manière à bloquer l'accès à la fenêtre. Et c'est vers 4 heures le matin du 29 avril 2019, je vous rappelle qu'on l'a retrouvé vers 11h30, que on l'a attaché avec du tape de la tête aux pieds. Selon l'adolescent, la fillette répétait qu'elle était tannée d'être dans sa chambre, qu'elle voulait manger, qu'elle voulait changer de famille, et c'est là qu'il est allé raconter que parfois elle pouvait passer là des journées là complètes dans sa chambre, parce que autrement elle allait voler, a-t-il utilisé comme terme, de la nourriture dans le garde-manger.
Incroyable. Et son témoignage se poursuit aujourd'hui, et le prochain témoin, ce sera le petit frère là, de la victime.
Oui, dès que le contre-interrogatoire du fils de l'accusé sera terminé, ce sera au 13e témoin, le petit frère de la victime, de la fillette, oui.
Oui, merci beaucoup Alexis. Merci. Alexis Sanson, qui est notre collègue de Cogeco à Trois-Rivières. Il faut attendre la suite, mais c'est une description, c'est important d'avoir ces détails-là. Puis c'est pas pour faire du sensationnalisme, c'est pour illustrer ce qu'un enfant au Québec a vécu. Et on peut s'interroger sur les signalements faits, puis le rôle de l'entourage aussi. Là. Ça n'a pas de bon sens que cet enfant-là ait vécu dans des conditions aussi horribles, puis finalement soit décédé.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Ben, le résultat est tombé tard hier soir. Les résidents du Maine ont dit non au projet de Hydro-Québec, ce projet de corridor énergétique qui vise évidemment à alimenter Boston. C'est un projet majeur qui devait rapporter des milliards à Hydro-Québec. Sophie Brochu est la présidente d'Hydro-Québec. Bonjour, Mme Brochu.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, alors, d'abord, un commentaire sur le résultat. Les sondages nous laissaient croire que c'était pas mal plus serré que ça, non?
Oui, ben en fait, je pense que les sondages, c'est une science qui évolue avec les nouvelles réalités des médias sociaux. Là, on a vu là ce qu'on a vu un peu partout en Amérique du Nord depuis quelques temps. Là.
OK. Deuxième question. Devant ce refus, quelles sont les options de Hydro-Québec?
Bon, d'abord, je rappelle là qu'Hydro-Québec a, avec son partenaire américain, a reçu il y a plusieurs mois tous les permis réglementaires de toutes les autorités étatiques et fédérales qui ont donné le feu vert au projet. Le projet est en construction. La construction a débuté il y a quelques mois. Il y a plus de 400 millions qui sont déjà investis. Ce matin, là, il y a 600 personnes qui travaillent sur ce chantier-là. Et là, ce qui se passe, c'est que dans l'État du Maine, il y a une disposition légale qui permet à des citoyens d'inscrire dans les référendums d'automne ce qu'on appelle des projets de loi citoyens, des initiatives, pour peu qu'ils recueillent, c'est-à-dire 60 000 signatures pour proposer un projet de loi. Les entreprises concurrentes d'Hydro-Québec qui produisent de l'électricité à partir d'énergies fossiles ont financé, en payant des gens, la cueillette de ces signatures-là pour proposer un projet de loi qui essentiellement dit écoutez, les projets de transmission électrique dans le nord de l'État, notamment, devraient requérir l'approbation du 2/3 des municipalités qu'ils traversent. Et ils veulent faire ça rétroactivement en plus dans le temps. Alors, il n'y a pas de processus qui vérifie, appelons ça, la légalité, la constitutionnalité des projets de loi qui sont déposés par les citoyens. Alors, au cours des derniers mois, il y a eu une campagne publicitaire massive financée contre Hydro-Québec et son partenaire américain par les entreprises fossiles. Puis là, j'arrête là parce que c'était foufrette, là. Mais tout ça pour dire que hier le résultat est tombé et on a donc un projet de loi initié par des citoyens, financé par des entreprises fossiles qui veulent arrêter le projet. Alors, vous comprendrez qu'à ce stade-ci, On pense pas, nous, qu'on puisse changer le score d'une game de hockey quand la sifflette a sonné, que tout le monde est sorti de l'estrade, puis qu'on dit, bon, on recommence la partie. Là.
Mais pouvez-vous aller en cours pour contester la légalité de la débâcle?
Oui, en fait, c'est ça. Là, présentement, d'abord, on reste calme, on reste serein. Et c'est un jeu de serpent et échelle, cette affaire-là. Là. Et c'est ce qu'on vit depuis le début du projet. Puis je vous le dis, la ligne va couler son électricité, puis il va y avoir encore des contestations financées par des entreprises, soit-elle. Alors, on va faire valoir nos droits. Notre partenaire américain qui construit la ligne va faire valoir ses droits. On va l'appuyer. On va bien faire ça. Mais maintenant, il faut prendre acte. Puis il faut aller défendre nos droits. On est en terre d'Amérique. Et puis, il faut jouer la game comme elle se joue au sud de la frontière. Là.
Est-ce que vous avez regardé l'option de modifier le parcours, donc de ne pas passer par le Maine? C'est possible ou pas de faire ça?
Ben, on n'est pas là du tout. Écoute, on a commencé à construire. Il y a 125 000 déjà de préparés sur 145 dans le bois. Là. Fait qu'on n'est pas là du tout. La ligne est en train de se construire. Comme je vous dis, c'est une question de temps. À la limite, ça va être une question d'argent. Mais cette ligne-là va se construire.
Et les travaux vont continuer?
Ah, les travaux, le monde va être là matin. Les travaux vont continuer. Là, c'est sûr que les opposants vont amener des injonctions, puis ils vont vouloir qu'on arrête. Puis là, on va se tirer des injonctions par la tête. Là. On est là-dedans depuis le début. On va continuer à jouer à ça. C'est talent. Mais ce que ça dit en pleine semaine de la COP, le pouvoir des entreprises qui ont beaucoup d'argent et qui produisent leur électricité à partir d'énergie fossile. Ça, je vous le dis, là, on a beau faire tous les parties planétaires qu'on veut, tant qu'on va laisser aller ces gens-là détruire des projets sociaux qui sont portés. Écoutez, notre projet, là, il est appuyé par le Maine, par tout, encore une fois, on a tous les permis. La secrétaire d'État américaine, là, le bras droit de M. Biden a appuyé le projet. Les appuis sont massifs. Mais il y a des gens qui ne veulent pas cesser de produire de l'électricité à partir d'énergie fossile. Ce sont les entreprises pétrolières. Elles sont riches. Leur modèle d'affaires a la destinée d'un iceberg qui dérive vers les mers du Sud, et puis ils vont se battre. Puis là, ils n'aiment pas ça parce qu'ils ont des gens qui sont capables de les suivre en cours. C'est ce qu'on va faire.
Est-ce que je comprends aussi que la demande d'électricité au Québec est à la hausse ou sera à la hausse?
Oui. Bien, en fait, oui, on en parle depuis un bon bout de temps. À la faveur de la transition énergétique, là, il y a de plus en plus de demandes pour migrer des gens qui aujourd'hui utilisent des énergies fossiles vers l'électricité. Puis il y a un appétit pour que des gens viennent s'installer au Québec aussi, justement parce que notre électron est vert. C'est pour ça qu'il faut pas prendre, comment je dirais, ombrage de visée politique des entreprises fossiles. Notre demande s'accroît ici. Puis on n'est pas condamné du tout là avec un regard oblique des entreprises fossiles sur notre énergie, au contraire.
Parce que la question que beaucoup d'auditeurs ont en tête, c'est de dire, OK, on va avoir besoin de plus d'électricité au Québec. On fait des contrats, je pense, à New York, pour de l'exportation à venir d'électricité. Est-ce qu'on va devoir construire des barrages? Est-ce qu'on va investir dans des éoliennes? C'est quoi le plan?
Oui, en fait, on construira pas de barrage. On a trois axes là pour répondre à toute la demande, créer toute la richesse, puis s'assurer qu'on fasse une transition énergétique qui soit exemplaire. Le premier puits de création de production, si vous voulez, c'est l'efficacité énergétique. Il y a beaucoup de capacités latentes dans une consommation, appelons ça, plus judicieuse de notre électricité. Mm-hmm. En 2014 puis 2020, on a dégagé 10,2 TWh, puis juste ça, c'est le contrat de New York. Fait que on va continuer de faire ça au Québec. Ensuite, la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on est en train de rénover tous nos groupes turbines alternateurs dans nos barrages. Hein. Ça fait longtemps qu'ils sont là, 50 ans, 60 ans. Puis quand on les rénove, on fait juste changer la turbine dans exactement le même socket, dans le même trou du barrage, là, on augmente la capacité et l'énergie qu'on est capable d'aller chercher. Puis troisièmement, oui, on va déployer de l'énergie éolienne un peu partout au Québec en fonction des besoins du réseau puis de l'évolution de la consommation. Ça va venir s'appuyer en complément des grandes capacités de réservoirs hydroélectriques. Alors, on a en main un portefeuille d'outils absolument remarquable pour être à la fois concurrentiel, aller profiter de toutes les occasions de marché, puis mettre notre épaule à la roue de la décarbonation, puis pas juste du Québec, puis du Nord-Est américain aussi. Et puis, ça prendra le temps que ça va prendre, mais on va y arriver.
Madame Brochu, merci. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Sophie Brochu, présidente, directrice générale de Hydro-Québec.
L'essentiel de Paul Arcand.
Je sais, c'était complètement délirant de voir ça hier, mais il faut souligner ce qui s'est passé à Dallas. Un rassemblement d'adeptes de QAnon.
Le Texas a été lieu d'un événement pour le moins farfelu hier, c'est ce qu'on peut dire. Des centaines d'adeptes du mouvement QAnon se sont rassemblés à Dealey Plaza, qui est l'endroit même où John F. Kennedy a été assassiné en novembre 1963. Pourquoi ils étaient là? Parce qu'ils étaient convaincus qu'à midi, à cet endroit précis, John F. Kennedy Jr., qui est mort dans un accident d'avion en 99, allait réapparaître pour annoncer que, premièrement, ben, il est pas mort, ou il était pendant tout ce temps-là, ça, on ne sait pas. Et il allait annoncer également que Donald Trump allait revenir à la présidence des États-Unis en 2024 et que Kennedy allait devenir ainsi son vice-président. Les conspirationnistes pensaient aussi qu'on allait reculer l'heure, d'une heure seulement, comme c'est arrivé en début de semaine ici, qu'on allait retourner au calendrier julien, et qu'on allait aussi retourner à la date du 20 octobre. Fait qu'il y a comme un 13 jours là, qui n'a jamais existé, puis on vient au 20 octobre. Il y en a même qui sont arrivés la veille au soir à cet endroit-là. Pourquoi? Pour avoir les meilleures places, probablement. Alors, je vais vous parler d'abord de QAnon, juste pour vous rappeler ce que c'est ce mouvement-là, parce qu'on en parle depuis un an et demi, mais c'est assez récent comme phénomène. Ça regroupe des gens d'extrême droite, et la théorie centrale du phénomène, c'est que les États-Unis sont dirigés par des pédosatanistes qui opèrent un vaste système de trafic d'enfants. On parle quand même de centaines de milliers d'enfants qui seraient cachés dans des souterrains aux États-Unis. Vous voyez le genre. Ça a commencé en 2017 quand une personne dont le pseudonyme est Q a commencé à publier ses théories sur le forum 4chan. Pourquoi ça a grandi aussi vite? Ça, c'est un mystère. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus de 30 millions d'Américains qui adhèrent à la théorie centrale de QAnon, l'affaire des pédosatanistes. C'est beaucoup d'Américains quand même. Là, on parle de 10 à 15 % qui croient à ça. Et depuis la défaite de Donald Trump aux dernières élections, les dirigeants de QAnon travaillent très fort pour rester pertinents. Alors, la dernière théorie avec laquelle ils sont arrivés, c'est que Kennedy Jr. est encore en vie et qu'on a trouvé le moyen d'être en contact avec lui par la numérologie. Vous voyez le genre? Et Kennedy aurait confirmé qu'il allait faire son grand retour mardi le 2 novembre. Mm-hmm. Il y a des journalistes américains qui se sont mêlés à la foule hier pour parler aux adeptes qui étaient présents et le discours était là, complètement farfelu. Il y en a qui ont dit que Kennedy Jr. allait réapparaître aux côtés de son père et que les deux allaient parader parmi la foule. Mm-hmm. Et l'autre théorie est encore plus stupide, là. Hier soir, il y avait un concert des Rolling Stones à Dallas. Parmi les conspirationnistes qui attendaient Kennedy hier, il y en a qui ont dit qu'en plus du retour de Kennedy, d'autres personnalités publiques réputées décédées allaient réapparaître le soir du concert des Stones. Parmi celles-ci, Robin Williams, qui d'ailleurs aurait été vu dans la foule hier parmi les conspirationnistes. Michael Jackson, qui apparemment serait une figure très importante et haut placée dans le mouvement QAnon, et même Kobe Bryant. Il y en a même un qui a dit à un journaliste, tu vois lui là-bas, là, c'est Robin Williams. Le journaliste a dit non, pas vraiment, mais c'est pas grave. Et pour tester la foule à un certain moment, il y a un reporter qui s'est adressé à tout le monde pour leur demander si on était déjà allé sur la Lune pour voir ce qu'elle allait répondre. Voici ce que ça donne.
Did we land on the moon?
No!
Did we land on the moon?
No!
Il embarque là-dedans, sachant pas que c'est un journaliste qui leur
demande
ça.
C'est vrai, ça a été fait en studio.
Hein? Oui, yes. Alain.
Finalement, voici exactement ce qui est arrivé à l'heure précise où le grand retour devait se faire.
It is almost 12:29. Any minute now, the big reveal. Crowd is big. Ready to go.
Voilà, rien, absolument rien. Il s'est mis à pleuvoir et la foule s'est finalement dispersée. Et c'est un autre revers pour QAnon et qui, malheureusement, leur théorie s'avère pas très, très souvent.
16 heures cet après-midi, René Lévesque sera au boulevard René Lévesque avec des... Ça se peut pas. Mais c'est
Jackson,
triste en même temps.
Oui, c'est ça, c'est un côté pathétique.
T'sais, on rit un peu parce que tu dis ça prend du monde pour fêler un peu, là. Mais ça veut dire que tu peux leur faire faire n'importe quoi. T'sais, tu leur dis écoutez, rendez-vous à telle heure, telle place, puis.
Et on sait pas c'est qui Q encore, hein. Le fameux personnage.
Une sorte de théorie.
Ouais, c'est ça. Mais confirmé, mais maintenant,
non,
on sait pas.
Non. Puis d'après moi, c'est plus qu'une personne.
Ouais. Ces gens-là votent, hein, je vous le rappelle.
Ouais. L'essentiel de Paul Arcan.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.